Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du bulletin GP qu'on enregistre à chaud en fait dans le cadre de ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Et quelle finale ce fut. Abdoussal avec vous et j'ai un mot pour résumer cette fin de saison. Exactement. Donc, dans les mots du légendaire Peter Drury, c'est juste staggering. Alors, j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Et en orange, parce qu'on est un champion du monde orange.
Effectivement. La vague orange. Effectivement. Et oui, Jean-Sébastien est en orange. Et celui qui est le plus évident, c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
J'ai pas besoin de dire comment tu vas.
Quelle émotion nous avons eue durant ce Grand Prix. Un début très difficile pour Max. Mais on va faire le résumé un petit peu plus tard, mais wow! J'ai pleuré, c'est tellement beau.
Exactement. Ben, écoutez, on enregistre à chaud. Je vais vous donner tout de suite les résultats du champion du Grand Prix.
Du Grand Prix déjà.
Du Grand Prix déjà. Alors, Max Verstappen gagne le Grand Prix dans le dernier tour face à Lewis Hamilton.
Carlos Sainz gagne également le championnat du monde.
Le championnat du monde des pilotes. Donc, Hamilton termine deuxième, autant dans la course et au championnat du monde. Et Carlos Sainz, contre toute attente, est troisième. Et écoutez...
Moi, c'est surtout la surprise en quatrième.
Yuki Tsunoda, quatrième. Pierre Gasly, cinquième. Et Valtteri Bottas, pour son dernier Grand Prix, sixième. Lando Norris, septième, qui a une crevaison lente. Fernando Alonso et Esteban Ocon, Elplan n'a pas fonctionné. 8e et 9e et Charles Leclerc 10e. Écoute, on est à chaud là. Je vous dis, on enregistre à chaud et on vient de se rendre compte du résultat. Ben, Yuki Tsunoda 4e, on s'y attendait pas. Mais
Pierre Gasly 5e non plus.
Ouais,
Pierre Gasly tellement loin, il y a tellement une course difficile. Waouh. Ouais.
Écoute, c'est fou.
Et... Quelle dernière course pour Honda, honnêtement. Là.
Oui, et en plus, c'est ça, c'est la dernière course de Honda. Alors, tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Vos réactions à chaud sur ce Grand Prix. Et je vais commencer, évidemment, tout honneur par le fan de Max Verstappen, Marc-André.
Ben écoute, comme j'ai dit tantôt, on a passé par toutes les gammes d'émotions durant ce Grand Prix. Un début difficile, j'avais noté justement dans mes cahiers que Max, dans les derniers Grands Prix du moins, avait de la difficulté avec la pression du départ. Et on se souviendra que lorsqu'Hamilton a perdu son championnat en 2016 contre Rosberg, ça avait joué énormément. Sa difficulté avec la nouvelle gestion du départ. Et Max a connu un départ lamentable. Hamilton a été foudroyant. Et par la suite... C'était presque joué jusqu'à la toute fin. Latifi qui perd ses appuis, qui rentre dans le mur. On nous offre, pour moi, honnêtement, un drapeau rouge facile. On aurait dû le coller. Même si Max a gagné aujourd'hui, je suis vraiment fâché parce que la FIA aurait dû lancer un drapeau rouge. C'était un endroit dangereux. C'était un endroit où ça prenait du temps. Et on a mis vraiment le championnat du monde en danger avec tout ça. Mais au final, Max a remporté. Je suis heureux. J'en ai même pleuré. Donc maintenant, il va me rester à m'acheter des chandails, des casquettes de ce beau moment pour peut-être même un tatou, on ne sait pas.
Écoute, j'ai hâte de voir le tatou si jamais ça devait arriver. Mais il y a une chose aussi, c'est que le tatouage, j'ai vu quelqu'un qui avait un tatouage de Max Verstappen, champion du monde 2021. Écoute, il a failli le regretter avant. Il a failli être stressé. Il a attendu le dernier tour pour que ce tatou soit réalisable.
Wow.
Wow, on n'en revient pas. Jean-Sébastien, toi, ta réaction à chaud.
Un superbe départ de Lewis Hamilton, un exécrable départ de Max Verstappen. On le voit au chrono, un dixième de temps de réaction plus lent pour Verstappen, trois dixièmes plus lent aussi pour atteindre les 200 km/h. Le virage 1, est-ce qu'il y avait controverse? Plus ou moins, à mon avis, au final, dans la mesure où Lewis Hamilton, c'est vrai qu'il prend une distance, donc prend un avantage indu, à mon avis. Par contre, dans les tours suivants, on voit que Hamilton ne fait qu'augmenter son avance. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un avantage? Pas tout à fait certain. L'interprétation du règlement là-dessus n'est pas totalement claire, mais je peux très bien comprendre, comme Martin Brundle disait, qu'on aurait pu redemander à Lewis Hamilton de reprendre l'écart initial.
Ouais.
De mettre une pénalité, certainement pas. Là. Ensuite, la tactique de course de Red Bull a été magistrale, à mon avis.
Oui, culotté également.
il fallait l'oser, mais bon, c'est ce genre d'équipe qui est capable de sortir ce lapin du chapeau. Lorsqu'on est deuxième, c'est toujours l'avantage par rapport au premier. Donc, on peut toujours réagir par rapport à ce que le premier fait. Donc, on fait l'opération contraire. Mais je ne comprends pas surtout pourquoi Mercedes n'a pas répondu point par point, comme en Arabie Saoudite. C'était la chose minimale à faire. Il n'y avait aucun danger, juste de refaire ça. Et donc, on se retrouve au dernier tour où on a une voiture avec des pneus usés des deux côtés. Deux voitures avec des pneus usés, mais un a des pneus très usés et c'était dur, et l'autre a des pneus un peu usés et c'était tendre. Et arrive ce qui arrive, Max Verstappen, champion du monde.
Oui. Vas-y, Marc-André.
Et sur ce que Jean-Sébastien a dit, je vais mettre mon petit grain de sel. Je trouve que cette course-là est la représentativité de tout ce qui s'est passé durant la saison.
Ah oui!
Des décisions bizarres de Mercedes à des moments cruciaux qui ont donné la victoire à Max Verstappen. Tu sais, on parle que Mercedes a gagné le championnat des constructeurs.
Oui.
Selon moi, Red Bull mérite tellement cette position-là parce que à chaque fois où peut-être il y a eu à Émilie-Romagne ou même en Espagne où ça a été plus difficile côté stratégie, mais à chaque fois, Red Bull a eu le dessus sur Mercedes. Et aujourd'hui, c'est le résultat. Il n'avait rien à perdre de tenter le coup, sauf une distance entre les deux. Peut-être qu'Hamilton a eu peur de sa voiture. Je ne sais pas. On dirait qu'il avait tellement confiance en plus avec sa voiture que je ne comprends pas Mercedes de ne pas avoir relancé la sauce. Écoute, c'était culotté de la part de Red Bull. Comme on le dit, cette écurie n'avait pas le choix de le faire. Mais comme... T'sais, quand on parle que Max Verstappen, la Formule 1, c'est un sport d'équipe. Là. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir un meilleur exemple que ça.
Oui.
Max, sans son écurie, ne peut pas gagner aujourd'hui et durant plusieurs courses durant la saison.
Oui, vas-y, Jean-Sébastien, je te laisse.
Ouais, alors, l'instant de Nicolas Latifi, c'est le virage 15, c'est ça?
Oui, virage 15. Oui,
virage 15. On a vu vendredi Kimi Raikkonen est sorti là et a eu un accident. Donc, on a eu deux incidents pendant le week-end à ce même virage-là. Ce virage-là est maintenant considéré comme difficile, voire même dangereux. Soyons clairs, il va falloir quand même essayer de le revoir pour sans doute pour l'année prochaine ou mettre au moins une grue ou ajouter des barrières de Tektron, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est à faire là. Réglons déjà le cas de ce virage-là. Oui, Abdou, vas-y.
Avant tout, le seul problème, c'est parce que je pense qu'il y a une petite marina à côté, donc ce qui fait en sorte que c'est un peu difficile.
On est à Abu Dhabi, la marina va dire bye-bye.
Oui, écoute. Et c'est vrai que ça, c'est un man-made, une île.
Tout se modifie là-bas, ça ne sera même pas difficile.
Ouais. Moi,
donc, réglons déjà.
C'est Jean-Sébastien fini.
Ensuite, pour la voiture de sécurité, est-ce qu'il fallait faire une voiture de sécurité ou un rouge? À mon avis, je pense qu'on a pris la bonne décision. Je pense qu'il fallait garder la voiture de sécurité.
Oui.
Pour le spectacle, cependant, il aurait peut-être été intéressant. Et c'est peut-être une chose qui sera à faire. Et ça me fait vraiment mal de devoir dire ça. De faire comme le NASCAR. Et lorsqu'il reste un certain nombre de tours, de mettre un rouge automatique pour s'assurer que tout est clean, qu'on prenne notre temps pour bien nettoyer la piste, pour qu'il n'y ait plus de danger, pour qu'il n'y ait plus de problème et qu'on fasse une vraie rivalité au final. Le résultat aurait sans doute été très différent, hein, mais n'empêche, il me semble que ça aurait été la meilleure chose à faire. Ensuite, gardons le jaune. La FIA, pendant ce temps-là, elle est débordée. Elle doit s'assurer que tout est réglé en piste. Ouais. Et après, il y a deux chromos, disons-le. un qui s'appelle Monsieur Posh Pice, l'autre qui s'appelle Monsieur Stoddart. On peut les renommer d'une autre façon. Qui dérange non-stop Michael Massey pour lui dire « Michael, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Michael. Il faut que tu fasses ça. C'est ça qu'il faut faire. » Michael Massey, là, il y a deux oreilles, il a une bouche. Il faut qu'il dirige ses affaires. Il faut qu'il écoute son monde. Il n'y a pas à écouter ça. Il n'y a pas à faire du parenting counseling ou faire je ne sais trop quoi.
Ouais.
Le gars, il est débordé. Puis après, on va dire, oh, il n'est pas si bon que ça. Mais c'est parce que le gars, il n'arrête pas de se faire déranger non-stop pour faire son travail. Je pense qu'il a pris la bonne décision et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Mettre la voiture de sécurité. S'assurer que la voiture dégage correctement. Ensuite, est-ce que le règlement sportif était bien respecté sur les voitures...
retardataires?
Les voitures retardataires devaient laisser leur place. Ça, je ne sais pas tout à fait parce qu'il faut aller regarder correctement le règlement sportif. Je l'ai sous la main, après tu me l'as envoyé.
Ouais.
Il fait une demi-page à peu près, c'est l'article 39.12. Donc, j'essaie de le lire pendant qu'on se parle, mais il y a sans doute quelque chose qui est à revoir dans cette partie du règlement. Ah. Mais c'est pas si clair. Et je regarde les réactions sur les réseaux sociaux et on voit que les Britanniques sont en furie, mais littéralement en furie,
ouais,
par rapport à la décision de Michael Massey.
C'est Marc-André qui nous rejoint.
Et ça, c'est Marc-André qui revient parce qu'on l'a perdu.
Ouais.
Et donc, c'est une décision qui, je peux comprendre encore une fois, les Britanniques d'être en colère parce que c'est pas toutes les voitures qui ont pu reprendre leur place, mais bon, il restait tellement plus assez de temps qu'il fallait prendre une décision. Et je pense que dans le grand schéma des décisions, c'était la moins pire.
Ouais, vraiment. Écoute, moi mon impression de ce Grand Prix, elle était bonne. Je vais pas dire bonne, elle était ordinaire dans l'ensemble. Parce que
ça reste toujours un circuit ennuyant.
Oui, écoute, le circuit est meilleur, est meilleur, soyons honnêtes.
C'est pas difficile.
Mais le spectacle était relativement pas là. Écoute, évidemment, ça s'est joué dans le dernier tour, mais globalement, j'ai trouvé la course ordinaire. Pour ce qui est de l'incident du premier tour, écoute, la tentative de dépassement de Verstappen était legit. Hamilton était en médium, Verstappen était en tendre. Donc, évidemment, vous avez parlé du départ lamentable de Verstappen, ça a joué en compte. Donc, il fallait qu'il reprenne la position pour essayer de garder...
On parle de départ lamentable. Il a réagi en 0,35 secondes par rapport à l'extinction des feux rouges, un tiers de seconde. Ce qui est dans l'absolu extrêmement rapide, mais bon, très lent pour la Formule 1, là.
Oui, exactement. Écoute, c'est quand même fou à quel point un dixième peut tout changer. Et ouais. Hamilton, ben écoute, moi je crois l'explication de la FIA était legit bonne, mais c'était pas suffisant. Je pense pour le bien du sport et de son intégrité, au moins lancer une enquête pour dire est-ce que bon, ils ont peut-être regardé à chaud, certes, d'accord, mais au moins pour dire est-ce qu'il y a eu avantage. Moi, je pense qu'il y a eu un léger avantage. Je dis bien léger, mais pas assez. De toute façon, le rythme d'Hamilton était, sur les médiums, suffisant pour distancer Verstappen. Donc, s'il devait se prendre une pénalité de 5 secondes, par exemple, il serait quand même revenu un petit peu devant. Mais
c'est ça, au moment des faits, la FIA ne le savait pas que le rythme d'Hamilton allait être aussi bon. Moi, je pense vraiment qu'une enquête, tout simplement une enquête, regardez les temps, regardez comment c'était, parce que moi aussi, il y avait à peu près, quoi, peut-être quelques millièmes de seconde, et ensuite, on est passé à une seconde en moins de
oui,
quelques mètres.
Lewis est allé chercher 1,4 secondes à peu près.
Mm-hmm. Exact. C'est énorme pour si les deux voitures étaient semblables, mais là, visiblement, Mercedes était très rapide, complètement. Cette voiture volait sur la piste. Donc oui, le temps va continuer à s'élargir. Et c'est peut-être aussi pour ça que la décision est venue ainsi. Parce que bon, après, on est passé pratiquement à 2-3 et ensuite à 2-5. Donc visiblement, la FIA a jugé que Hamilton n'avait pas eu un avantage suffisamment grand pour donner une pénalité. Ce qui est normal en mortaise. Mais oui, je trouve que le dépassement, la tentative de dépassement de Verstappen était legit, comme tu dirais. Je trouve qu'il avait un certain avantage rendu au point de corde. Maintenant, ça peut être débattu, là. Comme Arles, il mentionnait, est-ce que c'était un point de freinage ou de corde? Rendu là, Hamilton était derrière, a ralenti très rapidement. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais il a freiné très rapidement Hamilton quand même.
Avant de répondre à ta question, tu sais le clip que j'ai joué en début de podcast? Ben, ouais. Ça me fait penser... Tout cela, non, non. En fait, ça me fait penser... Excuse-moi.
Non, non.
Ça me fait penser à... il fallait bien que j'en fasse. Ça me fait penser au but de Sergio Aguero pour Manchester City en 2011-2012. Ben écoute, c'est dans les dernières minutes, dans le dernier tour, c'était ça. Mais pour vous... Oui, vas-y.
Mais pour revenir sur l'incident, la Red Bull a un super freinage.
Oui, mm-hmm. Oui.
De façon générale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture-là, mais cette voiture-là, c'est freiné beaucoup mieux qu'une Mercedes, donc...
Ouais. Je pense, Ricardo l'a prouvé pendant longtemps. Comme ça.
Oh oui, oh oui. Ah, oui, oui, oui. Oh oui, vraiment.
Ah oh, oui, clairement, écoute... Je dois dire quand même que ça a été exceptionnellement fait. Verstappen, comme j'ai dit, n'avait pas le choix. Et moi, je trouve que... Je pense que Hamilton a eu un léger avantage, mais pas plus pour, par exemple, être mis en infraction. Je crois qu'il est allé dans les règles, mais il a un peu overshoot.
Oui, oui. Overshoot. C'est moins pire qu'au Brésil, là, parce que ouais. Là, au Brésil, il y avait un problème. Là.
Ouais. Bon. Ouais, true.
À mon avis, ça reste dans l'esprit sportif.
Exact.
L'avantage qu'a Lewis Hamilton est un peu limite, mais il aurait quand même pris de l'avance au final.
Mais, je dois dire, chapeau à Sergio Perez d'avoir joué son
rôle. Oui. Voilà. Oh, ouais. C'est... Là, par contre, là, il faut dire, pilote du jour aurait pu revenir à Sergio Perez. Il faut dire que pilote du jour, semble-t-il, c'est mon numéro 7, c'est M. Kimi Raikkonen.
Est-ce que je peux me permettre un petit rant?
Oui, vas-y.
J'ai hâte qu'on se débarrasse du titre de pilote du jour. Je comprends dans le contexte... Je comprends que dans le contexte, Kimi Raikkonen, c'est sa dernière course, et c'est un pilote légendaire. Mais le gars avait un rythme potentiellement lent. Il était dernier, si on exclut la as de Mick Schumacher. Et,
c'est méchant pour Mick Schumacher. Tellement méchant.
Oh, écoute.
Non, c'est clair, il ne méritait pas. Non, le plaid du jour, à mon avis, c'est sans doute objectivement sur la piste. Ouais, ben, on peut le donner à Max Verstappen aussi, là.
Oui.
Mais Sergio Perez qui a permis à Max Verstappen de faire une remontada, mes amis. Uh-huh. Mais une sacrée remontada en bloquant Lewis Hamilton pendant deux tours et surtout dans la partie beaucoup plus lente.
Oui.
On a vu surtout que Sergio Perez est capable de se défendre en piste lorsqu'il a ses batteries et tout. Lorsqu'il est bien chargé en niveau batterie, capable de rivaliser face au DRS d'une Mercedes.
Mm-hmm.
Fascinant comment il a pu faire cette partie de la course. Passer de l'écart qui était à 10 secondes, je pense, 8?
12. 8.
12.
Mais je pense que c'était 12.
12. Donc, à partir de ce moment-là, qu'il a pu réduire ça à peau de chagrin très rapidement. Jusqu'à un certain point, je me disais, c'est limite dangereux. Mais est-ce que ça contrevenait aussi au règlement sportif?
Non.
C'était l'air d'être plus automobile, après tout.
Non, c'est sûr, mais s'il avait continué à ralentir un peu plus, ça aurait été limite parce que là, il serait devenu sans doute une chicane mobile, mais ça a été vraiment fait dans une certaine mesure dans les règles de l'art. Je trouve ça extrêmement fascinant. Ça. Franchement, Sergio Perez là-dessus mérite de rester chez Red Bull. Enfin, Red Bull a trouvé un super coéquipier à Max Verstappen et là-dessus, ça a été utile parce que je pense pas qu'aucun des autres coéquipiers de Max Verstappen n'aurait pu faire la performance qu'on a vue aujourd'hui en piste pendant deux tours.
Ah oui,
oui,
clairement.
Je suis complètement d'accord et moi, j'étais le premier à douter que ce duo allait bien s'entendre et finalement, Perez est extraordinaire. Il l'a prouvé en étant propre. C'est surtout l'important aujourd'hui. S'il fallait que ce soit Perez qui ait un contact avec Hamilton dans cette chicane-là et qu'Hamilton abandonner, ça aurait été terrible. Ça aurait été vraiment terrible pour le sport. Et finalement, il a réussi à faire ça en étant propre, en étant précis, en revenant sur la ligne droite. Je croyais que c'était fini.
Ouais.
Et non, il est revenu devant. Bon, selon Mercedes, c'était pas legit, là, mais comme on dit, hein, ça se joue... au coq à langue avec la FIA, donc...
Je m'excuse de revenir encore sur l'incident des derniers tours, des cinq derniers tours. Il y a James Hinchcliffe, qui a dit ils auraient dû mettre un drapeau rouge, laisser les pilotes changer leurs pneus, qui dit entre parenthèses, qui est quand même une règle de schnout, et donner un sprint de 5 tours à la fin.
Ils devraient regarder les tours.
Non, mais je voulais dire le drapeau rouge directement lorsqu'il y a eu l'accident de Latifi. Et il devrait regarder vers l'IndyCar pour regarder les règles concernant les retardataires pour un certain nombre de tours. Et en plus de ça, un ou deux tweets plus tard, il y a quelqu'un qui demande une pétition à ce qu'on remplace « Is that Glock ?» pour « Is that Latifi ?» Ouais.
Mais
et Pierre, excuse-moi Marc-André, il y a Pierre qui vient de moi. Il y a Pierre qui nous a envoyé. Pierre Mayotte, évidemment qu'on salue.
Ah yes. Salut Pierre.
Salut Pierre.
Qui m'a envoyé un jeu de mots fait par Canal+, Verstappen. Verstappen.
Oh non.
Oh mon Dieu.
C'est de la faute à Canal+. Et il vient de m'envoyer un jeu. Et il vient de me faire un short story en disant que c'était un jeu digne de moi. Quoique c'est vrai que je l'aurais fait.
Oui, t'aurais pu la faire, celle-là, Abdou.
Ah, oui.
Ça me déçoit que tu n'y aies pas pensé, en fait.
Mais écoute, je suis en train d'enregistrer un podcast.
t'aurais pu quand même la sortir par toi-même. Hein?
Attends, il va avoir le temps de réfléchir et trouver d'autres jeux de mots.
Oh non.
Soyez sans crainte.
Non. It was happening from the start. Écoute, je tiens à préciser, on est sous l'adrénaline, pas sur l'alcool.
Oh mon Dieu, oui.
C'est pour ça que c'est un peu erratique, parce qu'on est à chaud aussi. Oui. Justement, tu parlais un peu de Marc-André, de la stratégie de Mercedes, parce que oui, moi je trouve personnellement, la FIA a, disons, perdu un peu le contrôle de ce Grand Prix, mais Mercedes a perdu le championnat des pilotes, avec cette idée de ne pas de garder Lewis Hamilton en piste lorsque Verstappen l'a fait. Parce que, oui, je comprends, Verstappen avait des pneus durs, mais ensuite, la voiture de sécurité, certes, il y avait un gap d'une dizaine de secondes, donc ça a permis à Verstappen de rentrer pronto pour des pneus tendres. Mais Hamilton... Mais je ne sais pas à quelle position Hamilton était lorsqu'ils ont déployé la voiture de sécurité. Position sur la piste, évidemment. Mais pour moi, la première chance où Verstappen devait... lorsqu'il y a eu la voiture de sécurité virtuelle, parce qu'il y a Antonio Giovinazzi qui s'est arrêté en bordure de piste, en bordure de zone de dégagement, ça aussi, ça aurait pu permettre à Hamilton de garder le cap. Et en plus de ça, peut-être avec des médiums... Je pense qu'ils avaient un train de médium usé aussi qu'ils pouvaient utiliser, au pire. Ça a carrément jeté un peu... Ça a donné des ailes au plomb pour Mercedes.
J'ai hâte de voir ce que Toto Wolff va dire. Parce que, bon, pour les fans de Mercedes, je pense qu'ils méritent tous une explication. Est-ce qu'ils ont eu peur d'un futur drapeau rouge? Je ne sais pas de quoi ils ont eu peur. Parce que... La distance entre Verstappen et Hamilton en ce moment-là est à peu près de 11 secondes, si je ne me trompe pas. Avec l'arrêt, on parle de quoi? On parle de 14 secondes pour un arrêt sous drapeau jaune.
Une voiture de sécurité, non,
une voiture de sécurité, Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi ils n'ont eu peur de le faire entrer. C'est plate parce que c'est sur des petites décisions là, que Hamilton a perdu son championnat. Possible, le championnat maintenant finaliste. Mais comme on le voit, c'est vraiment culotté de la part de Red Bull d'avoir réagi comme ça. Et c'est à l'image de Red Bull également, de la compagnie, de réussir à gagner comme ça.
Ouais.
La compagnie ne peut pas rêver mieux.
Ah oui, clairement, écoute.
La Red Bull donne des ailes, puis on a dit c'est vrai.
Ouais. Oh, et attends. Réaction de George Russell concernant tout le bordel. Parce que...
C'est horrible, ça. Les propos de George Russell sont très vindicatifs.
Tweet 1. This is unacceptable
En majuscule.
En majuscule à la Marie-Chantal Toupin.
Oh, man. Ouch.
Deuxièmement, Max est un pilote incroyable, fantastique, a une saison incroyable et il a beaucoup de respect pour lui. Mais ce qui s'est passé en lien avec les derniers tours est tout simplement inacceptable. Je ne peux pas croire ce qui vient de se passer. Puis il y a quelqu'un ensuite qui vient de dire... qui vient de sortir justement la fameuse règle 39.12.
102 000 likes pour son message. This is unacceptable sur Twitter.
Ouais.
Je dirais juste une chose. George Russell est déjà prêt pour être chez Mercedes, lui.
Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marc-André?
C'est parce que ce qui me dérange, on va le voir sur Twitter et tout ça. Là. Bon, Mercedes a été volé et tout ça. Rendu là. Si la course ne reprenait pas, qui était volé? C'était Red Bull. Donc, dans un cas ou dans l'autre, je voyais des commentaires. Je ne suis vraiment pas toujours d'accord avec Jacques Villeneuve, et même rarement. Mais sur ce point, il est venu vraiment me chercher parce qu'il disait ce qui est difficile dans l'ambiance de la Formule 1 dernièrement, c'est d'être neutre. On dirait que tu n'es jamais capable d'être neutre. Même si tu favorises un pilote ou l'autre, t'es toujours dans un camp ou un autre, alors que habituellement, on était capable de critiquer une décision sans être un pro Hamilton, sans être un pro Verstappen. Et actuellement, dans l'ambiance, en ce moment, c'est impossible. Ouais. Donc, pour les rares fois où je suis d'accord avec Jean Villeneuve, je lui lève mon chapeau parce qu'il avait complètement raison. Et là, on va le voir encore une fois partout sur Twitter. Ça va crier au scandale, mais dans un cas ou dans l'autre, il y aurait eu un scandale. Donc, rendu là. C'est une décision qui a été prise par la FIA et on doit l'accepter en vie.
Ouais, écoute, moi, comme je l'ai dit sur Twitter, le règlement sportif doit être jeté à la poubelle carrément et être écrit de manière claire parce que sérieusement, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, c'est depuis des années que c'est ce problème et je vois que c'est cette année qu'on voit toutes les irrégularités et que ça explose à un certain sens aussi. Alors, je crois en quelque sorte que le règlement sportif, il y a tellement d'amendements. Je regarde le règlement... Tiens, j'ai le règlement sportif. Le règlement sur la voiture des sécurités est à 39.1, 39.2, 3, etc. Ensuite, il y a le 39.8 qui parle de toutes les exceptions. Ensuite, il y a le 39.10, etc. Donc, il y a plein... Il peut y avoir plein d'amendements et le règlement est genre 90 pages, à peu près. Là. Donc, je crois que... Et parfois, il peut y avoir des règlements qui sont éparpillés dans une section comme dans l'autre. Donc, moi, je crois que s'ils veulent faire ça pour 2022, pour éviter d'avoir un bordel sportif comme on a vu aujourd'hui, il va falloir tout regrouper en un. Faire en sorte que, par exemple, tu as des règlements en termes de voitures de sécurité et voitures de sécurité virtuelle, pas deux points différents. Et ensuite, tu peux avoir, par exemple, le cas de Bel, le cas du Grand Prix de Belgique en concernant à quel moment le chrono commence pour la limite des 3 heures et tout. Donc, certes, ce sont des trucs qui sont exceptionnels, mais ça montre une irrégularité incroyable dans les règlements qui ne fait qu'exploser. Jean-Sébastien, tu voulais réagir?
Bonne chance pour réécrire le règlement sportif. Mm-hmm. Ça sera certainement pas une sinécure. Les équipes voudront sans doute donner leur mot parce que visiblement, c'est un gentleman agreement et ils vont vouloir essayer de trouver des consensus parce que la Formule 1, maintenant, semble vouloir fonctionner de cette façon-là. On était capable de transformer la Formule 1 vers ce qu'elle est depuis le rachat par Liberty Media. On a des nouvelles voitures qui arrivent à partir de l'année prochaine. On a été capable de déterminer un plafond budgétaire. On a fait des choses qu'on ne croyait complètement impossibles il y a encore 7 ou 8 ans. Mm-hmm. Réécrire le règlement sportif, par contre, ça me semble très difficile. Mais en même temps, je ne serais pas surpris s'ils soient capables de le faire. Mais ils ne seront pas capables de le faire pour le mois de mars. Impossible. Mm-hmm. Ça prend au moins un an de travail, voire même deux.
Pour que ce soit bien fait également.
Pour que ce soit bien fait. Mais au final, lorsqu'on regarde à peu près les décisions un peu controversées pendant la saison entre Lewis versus Max, au final, c'est un peu 50-50. Il faudrait faire la compilation, mais... On fait du cherry picking pour avantager, disons, Lewis Hamilton, mais on est capable aussi de faire le même cherry picking pour avantager Max Verstappen. Donc, au final, à mon avis, les décisions, elles sont tout aussi... On est pas loin du 50-50 pour les décisions qui avantage qui. Donc, au final, le meilleur pilote a gagné aujourd'hui, clairement. La meilleure voiture aussi a gagné, à mon avis, clairement aussi.
Effectivement.
Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Contrairement à ce que Toto Wolff dit, ça arrange tout le monde. Ouais. Ou ce que la phase de Toto Wolff dit, en fait. Là.
Oh oui, clairement. Ouf. Wow, c'est... Chez Mercedes, écoute, en ce moment, on célèbre peut-être le... Je ne pense pas qu'on va célébrer le championnat des constructeurs aujourd'hui.
Un huitième consécutif.
Il faut quand même, leur donner ça. C'est l'histoire qui s'écrit devant nos yeux, autant pour Max Verstappen que pour Mercedes, parce que jamais une écurie n'a été capable de gagner 8 fois le championnat des constructeurs de manière consécutive. Mais ce qu'ils voulaient, c'est le doubler. Et de la manière dont ça s'est fini, certes, ça laisse quelque chose de très amer dans la gorge de plusieurs personnes chez Mercedes. Et on doit dire aussi, Valtteri Bottas a fini 6e aussi.
Il était complètement absent aujourd'hui. Il y a un départ exécrable, il a perdu 2 places et on ne l'a jamais revu ensuite.
Oui. Et écoutez, essayons de mettre un peu tout ça de côté, toute la mascarade des derniers tours et du Grand Prix en général. AlphaTauri, 4e, 5e!
J'en reviens pas!
Je vous le jure! La course était terminée, puis quand je regardais le classement que je vous ai donné, j'ai fait « What? Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, 4e, 5e! » Déjà qu'on avait oublié que Carlos Sainz aussi a terminé sur le podium.
Sur le podium, oui. Bon, quand je l'ai vu, je suis comme « Oh! » Carlos Sainz, 3e sur le podium.
Ben, remarque,
mais j'ai pas vu venir.
Mais remarque que Carlos Sainz a souvent été ça, ses podiums. Souvent, c'est dans l'anonymat qu'il célèbre.
Bon, pour Carlos Sainz, c'est ce qu'on peut juste dire. Smooth operator. Smooth operator.
Ah, écoute, j'ai pas de chandelle, mais j'aurais certainement. Allumer un briquet. J'ai pas de briquet, mais j'en aurais seulement allumé un pour suivre avec ça.
Donc, oui, ce résultat de course est assez impressionnant, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le classement final des constructeurs, quand même.
Oui.
Est-ce qu'on peut s'en parler? J'ai le classement devant les yeux, je vais vous le donner, si vous me permettez.
Oui.
Mercedes qui remporte quand même 613 points et demi contre 585 et demi pour Red Bull. Ferrari finit 3e.
Oui.
Qui l'avait vu venir en début de saison quand même? 323 points et demi contre 275 pour McLaren. C'est presque... C'est 47 points et demi d'avance. C'est 48 points et demi d'avance.
Écoute...
Tu l'avais vu?
En fait, c'est que dans un des épisodes où on préparait le... Marc-André, si tu te souviens, on préparait le programme triple Mexico-Sao Paulo-Qatar. J'ai les résultats des prédictions qu'on avait faites.
Ah!
Premièrement, pénalité... Pénalité pour Lewis Hamilton pour son moteur. On avait tous dit, Anna Maria, Marc-André Fortin et moi, Brésil. On a eu juste. Qui allait arriver à Abu Dhabi en avance? Techniquement, il y a égalité, mais c'était avantage.
Il y avait quelqu'un qui était en avant officiellement.
Max Verstappen. On a tous dit Verstappen. On a eu bon. Question 2.2. On va faire comme avec le règlement sportif. 2.2. quel serait l'écart au classement? Je me souviens plus si c'était entre 10, 20 ou 30, mais on avait dit... moi, j'avais dit entre 10 et 20. Anna Maria, 20. Et Marc-André, c'était entre 20 et 30.
Non, on était complètement à côté de la plaque. Là.
Ouch. On avait dit aussi... Entre McLaren et Ferrari, qui allait finir 3e, Anna Maria a dit McLaren, Marc-André avait dit McLaren, et le seul moment où je peux officiellement me péter les bretelles, j'ai dit que c'était Ferrari, à cause de leur évolution moteur, mais aussi du châssis qu'ils ont travaillé et qui a porté fruit, parce que depuis la victoire de Daniel Ricciardo, et même le doublé de McLaren, ça a été une catastrophe. Écoute, dans le programme triple, justement, ils ont récolté 4 points, les 4 étant de Lando Norris.
Mais Addo par 48 points et demi.
En plus!
C'est fou. Sur McLaren, sur 48 points et demi. Et juste pour finir le classement, après, c'est malgré la super performance d'Alpha Tauri, ça n'a pas payé aujourd'hui parce que Alpine finit 5e avec 155 points, suivi d'Alpha Tauri avec 142.
Mm-hmm.
Oh, yeah, donc, on a un L-plan sans doute pour 2022 pour Alpine.
Oui! Et oui, effectivement. Et malgré tout, parce que je pense qu'il fallait que Alpha Tauri marque au moins 28 points de plus que. Ouais. C'était impossible.
C'est pas arrivé.
C'est pas arrivé, écoute. Le 4e, 5e, c'était quelque chose. Alpha, il y a Aston Martin, 7e, écoute.
C'était difficile pour les deux pilotes aujourd'hui.
Oui.
Chose positive, c'est nouveau, mais Sébastien Vettel remporte le championnat des plus grands nombres de dépassements. Si on peut appeler ça un championnat ou un prix, le prix crypto.com pour le plus grand nombre de dépassements dans une saison. C'est Sébastien Vettel qui l'a remporté. Oh, quel était ce son?
Do you think that's necessary?
Évidemment, en lien avec ce prix, en fait.
Plus ou moins nécessaire, mais bon, quand même, Sébastien Vettel l'a remporté et la Formule 1 nous l'a poussé à chaque Grand Prix vers la fin de la course pour nous montrer qui menait de cet ordre-là. Donc, au moins, Sébastien Vettel remporte un prix en quelque façon.
Ouais.
Donc, mauvaise voiture en qualification, mais bonne en course plutôt, la Aston Martin.
Ouais, exactement. Écoute, aïe, aïe, aïe. Écoute, ils ont fait beaucoup de... Ils ont embauché Martin Whitmarsh, ils sont allés chercher du monde chez Mercedes un peu partout. Donc, est-ce que ça va être bon pour 2022? Dieu seul le fera. Mm.
Moi, je veux juste faire une parenthèse, les gars. J'ai un ami qui vient de m'écrire.
Oui.
Il dit, bon, plus j'y repense, Verstappen le mérite. Même si je veux voir des rebondissements, des twists complètement aléatoires, je vais regarder Occupation Double à la place.
Ouch! Allez écouter Occupation Hood à la place.
Oui, c'est ça. Là, il y a des rebondissements.
Ouais, effectivement. Mais oui, écoute.
Oui, honnêtement, Max mérite amplement et tellement ce championnat. Là, j'étais un peu. Je pense que je suis un peu grippé. Mais quand on regarde l'entièreté de la saison, la malchance, il y en a eu du côté de Max, à Bakou, l'erreur de Pirelli avec les pneus. Ensuite, on s'en va en Angleterre. Déjà là, c'est. Pratiquement 25 à 18 points qu'il a perdu. Ensuite, une course plus tard, c'est en Hongrie. Mmh. Encore là, au moins 25 à 18 points qui ont passé. Donc, quand tu regardes tout ça, le fait qu'il ait gagné aujourd'hui, c'est un peu encore là une représentativité de tout ce qui s'est passé durant la saison. Verstappen a vraiment dominé Hamilton. Il a été bon pour tenir Hamilton aussi. Et j'ai hâte de voir l'an prochain parce que là, quelle sera la réaction d'Hamilton? Parce que là, on parlait du 8e enfin avant le changement de réglementation et de nouvelles voitures. Mm-hmm. Quelle va être la motivation d'Hamilton? Ça, j'ai tellement hâte de voir ça. La
motivation d'Hamilton va être plus forte que jamais. Un peu comme
ça va être fou. Ça va être fou.
Mais là, par contre, Lewis Hamilton va avoir peut-être plus de difficultés dans la mesure où il va avoir un super coéquipier.
Ouais.
Et un coéquipier qui peut vraiment rivaliser avec lui.
Oui.
Et encore là, quelle sera la réaction d'Hamilton face à ce jeune George Russell qui n'a rien à perdre rendu là?
Non. Par contre, pour Red Bull, ça va être un petit peu plus difficile de gagner le championnat des constructeurs parce que là, il y a un super coéquipier avec Lewis Hamilton.
Ouais, effectivement. Oui. Donc,
Puis encore là, on ne sait pas à quel point comment les voitures vont réagir. Là,
on peut déjà supposer que ça va être encore un duel Mercedes versus Red Bull quand même.
Mais... Ou bien Ferrari qui arrive. Out of nowhere!
Non, moi, je redoute surtout le L-plan. Je veux voir ça.
Oh, j'ai hâte. Je pense que ce mot va être beaucoup plus utilisé en 2022 que ce qu'on a eu aujourd'hui, cette année.
Oui, mais n'empêche, aujourd'hui, le travail fait par Red Bull, le L-plan, 5 étoiles.
Oui, vraiment. Je suis très content du travail de Sergio Pérez. C'est juste dommage qu'il ait abandonné. On ne sait pas encore pourquoi, en fait. Mais Sergio Pérez mérite toute mon approbation, en fait. Écoute, je sais qu'il a souvent été critiqué pour des performances un peu décevantes. Mais depuis, je dirais même la Turquie, mon Dieu, que Pérez a été un pilote vraiment bon. Et même ses batailles contre Lewis Hamilton, autant Turquie que Brésil et ce qu'on avait à Abu Dhabi, c'était
magistral.
C'était magistral. Alors, Checo Pérez, vraiment, va être un atout de qualité. Ben, il était déjà un atout de qualité, mais s'il continue sur sa forme depuis le Grand Prix de Turquie, je pense qu'on va avoir un beau duel au championnat des constructeurs parce qu'il va avoir en plus George Russell qui va l'affronter. Peut-être, je ne dirais pas comme numéro 2, mais... Parce que c'est sûr qu'il va avoir Hamilton contre Verstappen, mais je pense, je prévois aussi qu'il va avoir aussi un duel Pérez-Russell aussi.
Disons que la performance aujourd'hui de Sergio Pérez lui donne de bons atouts pour négocier son contrat pour 2023.
Ah oui! Donc, ce qui veut dire probablement Pierre Gasly oublie Red Bull.
Oh, il va falloir qu'elle le voit ailleurs. Il va peut-être falloir qu'il se réconcilie finalement peut-être avec Esteban Ocon.
Et Oscar Piastri. Et le champion de Formule 2.
Mais oui. Lui, si, on a besoin vraiment de une ou deux autres écuries. C'est tellement dommage que Oscar Piastri reste comme pilote de réserve. Il a tellement prouvé son talent. Écoute, 3 championnats gagnés en 3 ans.
Oui.
Puis il n'y a rien.
Incroyable.
Il se fait prendre à 30 millions d'euros.
Ils disent, ouais, true. Bon. Je vais pas ajouter mon grain de sel. Mais parlons justement de Oscar Piastri parce qu'il a été officiellement sacré champion grâce à une 5e pole consécutive en Formule 2.
C'est super dur faire ça.
Yaron Daruvala a gagné la première course sprint. La deuxième, c'est Guan Yu Zhou justement qui l'a emporté, qui termine officiellement deuxième. Et ensuite, dans la course 3, ben, Piastri a tout simplement gagné alors qu'il partait en pole position. Alors, Piastri, on risque de le voir un peu plus souvent dans la Alpine, mais comme pilote d'essai peut-être en 2022. Donc, vraiment, je crois que on a dû... on a vraiment hâte de voir Piastri dans une Formule 1 un jour. C'est peut-être pour 2023. Est-ce que ce sera ailleurs aussi? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, en fait. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre aussi pourquoi il n'a pas un volant en Formule 1 aussi. Donc... Oh! Drama.
Bon.
Mercedes a lancé
un protêt
contre Max Verstappen pour l'article Breach of Article 48.8.
C'est quoi le 48.8?
Est-ce qu'on a des détails?
Moi, je l'ai ici, je m'en vais chercher.
C'est croustillant.
Écoute, ça vient de tomber, là.
On s'en sortira jamais.
Attends, je l'ai devant moi.
C'est lequel?
Ok, je vais vous le lire en anglais. 48.8. Okay. With the exception of the cases listed under A to H below, no driver may overtake another car on track, including the safety car, until it passes the line, see article 5.3, get lost, je ne vais pas lire ça tout de suite, for the first time, after the safety car has returned to the pits. The exceptions are if a driver is signaled to do so from the safety car under the article 41.1, 48.2, 51.6, and 51.2 below. When entering the pits, a driver may pass another car remaining on the track, including the safety car after he has reached the first safety car line. Quand il quitte la ligne depuis, un pilote doit dépasser ou être dépassé par une autre voiture avant qu'il ne dépasse la deuxième ligne de voiture de sécurité. Et quand la voiture de sécurité...
Donc, essentiellement, on accuse Max Verstappen d'avoir dépassé Lewis Hamilton sous la voiture de sécurité et avant la ligne blanche de dépassement, une fois que la voiture de sécurité est rentrée au puits, c'est ça?
Apparemment, oui.
Ça s'est déjà vu et il n'y a pas eu de pénalité. Du moment que tu veux se reprendre ta place derrière parce que tu essaies de réchauffer tes pneus, tu te dépasses une voiture un peu comme dans les tours de chauffe.
Mm-hmm, ouais, puis on l'a vu très près. Là. À un moment donné, il est...
Ben, c'est normal, c'est légitime aussi.
Exact. Ouais. Il était côte à côte, mais rendu là, ça s'est déjà vu, exactement. Donc, oh, là, là. C'est le petit dernier jeu de cartes que Mercedes a entre les mains.
Ils ont pas tort, par contre. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il était devant, parce que je l'ai remarqué, puis je le trouvais très, très proche, voire même un petit peu devant.
Ouais, moi
mais...
aussi.
En fait, je vous interromps, c'est pas un, mais deux protèges. 48.8 et 48.12.
OK, 0.8 et 0.12, c'est donc c'est...
Écoute, ça...
Est-ce que tu peux juste nous l'expliquer?
Je suis juste en train de vous le donner, en fait, parce que...
Les détails vont sortir aussi. Les détails vont sortir,
exactement, parce que ça vient tout juste de tomber, en fait, pendant que je regardais les internets, là.
Bon, sinon, pendant que Abdou cherche, on a une première citation de Toto Wolff.
Oh oui! Oh.
Toto Wolff a comparé Christian Horner à quelqu'un qui conduit à contresens sur l'autobahn.
La WWE verbale ne continuera pas, va continuer.
Ce championnat était très, très bon, à l'exception de la rivalité entre Toto Wolff et Christian Horner, qui rend ça complètement abject.
Ouais. OK, attends. Donc, 48.12, est-ce que ce ne serait pas en lien avec l'article 39.12 qu'on a évoqué?
39.12 étant encore, rappelez-moi.
Parce que ça,
vous,
c'est.
Les voitures?
Ouais, les voitures.
Oh, ben là, c'est parce que là, si ce protège-là est retenu, bonne chance pour essayer de refaire le Grand Prix, on ne peut pas le refaire.
Parce que c'est ça, l'article 48.12, c'est le règlement général. Celui que je t'ai donné, Jean-Sébastien, c'est celui de cette année. Donc, je pense que ça devrait être la même. Je pense que c'est le même règlement, en fait, concernant les voitures, les retardataires, en fait.
Le protest sera entendu à 19h45 selon Chris Midland, heure locale à Abu Dhabi.
Ouais.
Donc, actuellement, il est, je pense.
Attends,
18h... Je pense qu'il est 18h45 là-bas. Sauf erreur.
Ben, en fait, il est 19h47.
Donc, c'est en ce moment.
C'est en ce moment. Oh là
donc,
là.
Au moment où on enregistre, là, il est 10h47 heure de l'Est de la côte américaine. Là, donc, ils sont en train de le faire.
OK. Donc, voilà, c'est...
Ah! C'est un domaine de la FIA encore.
Écoute, ce championnat va probablement se décider après le podcast. C'est probablement, tous les graphiques que j'ai faits pour le bulletin GP... Probablement, je vais être obligé de les changer, mais je ne crois pas que la FIA va changer quoi que ce soit. À moins qu'ils disent « OK, c'est notre erreur » et que Max Verstappen soit pénalisé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Sinon, ben là, écoute... Ouais.
Ça fait quand même un peu désespéré par rapport à Lewis Hamilton qui a fait preuve un petit peu plus de classe quand même.
Oui, ouais, effectivement. Ben, ça fait comme les écuries ont fait durant toute la saison encore. Un proté par-dessus proté, un vrai proté. Et là, comme on dit, c'est le dernier jeu de cartes possible pour Mercedes, c'est d'essayer de sauver la décision par les commissaires, comme ça, en faisant appel. Maintenant, je ne crois pas que la décision va changer. Et est-ce qu'elle devrait changer? Je ne crois pas non plus. Rendu là, moi, je lève mon chapeau d'ailleurs à Honda là, qui part vraiment de loin quand tu regardes tout ça. N'oublions pas qu'il y a cette écurie-là. Alonso a quitté la Formule 1 à cause d'eux. Là.
En 2013, oui. quand Honda est revenu, c'était une catastrophe ce moteur.
Ouais.
Donc, là, ils sont
champions. On est passé de GP2 Engine à une voiture qui a permis à un pilote d'être champion du monde quand même.
Ouais. C'est fou. Et je voyais un tweet justement de Pierre Maillot qui disait que c'est quand même ironique de voir que c'est un moteur Mercedes avec la Williams qui change complètement la course aujourd'hui.
Ouais.
C'est très ironique, en effet. Je voulais le mentionner.
Écoutez...
On verra, écoute. Encore une fois, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini, c'est rien qu'un début.
comme aurait dit... le regretté Murray Walker. J'allais chercher la citation pour ne pas me tromper. Anything happens in Grand Prix Racing and it usually does.
Ouais. Et moi, j'ai juste une chose à dire.
Fucking hell!
On remercie les Racing Gods. On va leur faire une offrande.
Ouais, effectivement, écoute. Ben écoute, c'était une bonne fin de saison. C'était une saison à l'image de cette saison de Formule 1. Un grand prix à cette image. Donc, ouais. Ah, écoute, probablement que si, au moment où on décide le podcast, peut-être que Mercedes a gagné a réussi le doublé, ou bien Max Verstappen conserve sa couronne officiellement de champion du monde. Donc, qui sait?
Fucking hell!
Ça, c'était une erreur. Mais oui, enfin, ça résume ma pensée actuellement. Donc, sur ce, ben, je vais vous donner le classement des pilotes à l'issue de cette dernière course. Et je dis c'est officieux parce qu'on ne sait pas si c'est encore officiel.
C'est à titre provisoire.
À titre provisoire. Max Verstappen, donc, termine premier avec 395,5 points. Lewis Hamilton en a 387,5. Valtteri Bottas est troisième avec 226. Sergio Perez, 190. Carlos Sainz termine cinquième pour la première fois de sa carrière en Formule 1.
160. Le meilleur des autres, c'est Carlos Sainz. Et ça a très mal commencé sa saison aussi. Hein.
Ah oui, en plus.
C'était difficile.
Monsieur Constance. Lando Norris, qui était troisième pendant un bon bout de temps au championnat, termine sixième avec 160. Un point devant Charles Leclerc. Et Daniel Ricciardo est 8e avec 115. Pierre Gasly, 9e avec 110 points. Fernando Alonso et Esteban Ocon, respectivement 10e et 11e avec 81 et 74 points. Sébastien Vettel et Lance Stroll, 43 et 34 points. Yuki Tsunoda est 14e, 2 points derrière Stroll avec cette 4e place. Qui aurait cru? George Russell quitte Williams avec 16 points au total. Merci à la Belgique, entre autres. Kimi Raikkonen finit sa carrière avec 10 points. Nicolas Latifi en a 8. Antonio Giovinazzi termine sa carrière peut-être en Formule 1 avec 3 points en 2021. Mick Schumacher termine 19e. Robert Kubica, 20e, qui a participé à 2 Grands Prix. Et Nikita Mazepin.
Et en 2 Grands Prix.
A terminé devant Nikita Mazepin, qui n'était pas là parce que le pauvre a été frappé par la COVID, donc a reçu un test positif. Évidemment,
vous savez quoi? On aurait pu ne même pas le savoir, qu'on ne l'aurait même pas remarqué.
C'est pas faux.
Ouais. Mais effectivement, donc écoute, même Mick on l'a pas vu, donc on pourrait dire les deux. Ben Mick on l'a vu un peu parce qu'il était appliqué dans l'accrochage avec Nicolas Latifi.
Exact. Mais
à part ça, on l'a pas vu. Donc voilà. Au classement des constructeurs, donc Mercedes devant Red Bull, Ferrari termine devant McLaren, Alpine termine cinquième. Oh, Marc-André?
En terminant, Perez a parlé à propos de son abandon. Et il a dit spécifiquement, mon moteur allait exploser.
Ah, OK.
Ah.
Donc, ouf. Donc, on vient de se sauver d'une... on vient de se sauver d'une catastrophe chez Red Bull.
Selon lui.
Effectivement. Donc, en sixième place, on a AlphaTauri. Septième, Aston Martin. Huitième, Nicolas Latifi. Neuvième, Alfa Romeo. Et dixième, Haas avec un beau zéro pour la saison. Alors, c'est ce qui complète ce dernier épisode d'avant-course du bulletin GP. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là. On avait essayé entre autres le format en direct. Je vais voir si je reviens revenir avec ça l'année prochaine. Mais je pense que ça va être fort probablement en format podcast comme on le fait en ce moment. Et en plus, on l'a fait à chaud en plus. Donc, c'était vraiment intéressant. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis, mais il reste un ou deux épisodes dans notre plateforme. Il y a Histoire de F1 que je suis en train de préparer. Et le 31 décembre, c'est la revue de l'année de cette saison folle de Formule 1. Donc, peut-être que je mettrai un point pour dire, finalement, ce n'est pas Max Verstappen qui sera champion, ce sera Lewis Hamilton où on va dire... Ça restera la même. Max Verstappen est champion du monde, donc tout est à voir, mais on mettra la mise à jour de cette nouvelle de ses protèges sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram, même si j'utilise un peu moins. Sinon, on a bulletingp.com aussi. Il va y avoir quelques articles qui vont sortir aussi pendant la saison morte aussi, je l'espère, mais ça va être le cas. Évidemment, le podcast général va revenir aussi pour 2022. Donc, on va faire comme, contrairement à la soirée est encore jeune, je vous annonce officiellement notre retour en 2022. Donc, Jean-Sébastien, Marc-André, un énorme merci de m'avoir accompagné lors de ces après-courses.
C'est à nous que le plaisir revient, Abdou. C'était toujours un plaisir de faire ça avec toi.
Ah oui, écoute, c'est vraiment, vraiment apprécié. Écoute, j'ai eu bien des fun. J'ai eu bien des fun. Évidemment, on va se revoir. Je pense que Marc-André s'est confirmé pour la revue de l'année. Oui, Jean-Sébastien, est-ce que tu seras avec nous?
Je ne sais pas quand est-ce que vous l'enregistrez, en fait.
Ah, je te dirai ça en privé, en fait. Mais en tout cas, on sera soit 3 ou 4.
Il y a des possibilités.
OK, excellent. Donc, je te donnerai les détails, mais peut-être que vous entendrez Jean-Sébastien le 31 décembre dans vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toute autre plateforme où le bulletin GP est disponible. Alors, on va aller se reposer d'abord parce qu'il est bientôt 11h ici. Et on va aller célébrer. Marc-André va aller célébrer la victoire de Max Verstappen officiellement.
Oh oui.
Moi, je vais aller me reposer aussi puis, parce que je reçois de la visite aussi. Alors, merci énormément d'avoir été là. On se retrouve le 31 décembre pour la revue de l'année et dans les prochains jours pour Histoire de F1. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Quelle saison de 2021 ce fut? Prenez soin de vous et à la prochaine.
Salut à tous.